chemin de vie.
Amis auditeurs, c'est encore avec plaisir que nous vous accueillons sur votre radio locale pour un nouveau volet de la rubrique Chemin de vie. Vous pouvez la suivre chaque jour du lundi au vendredi et à cette même heure. Au micro, Jean.
Et Heidi. Et bien sûr, derrière la vitre à la technique, Daniel. Aujourd'hui, notre rubrique va encore nous conduire dans le livre de Néhémie.
Oui, c'est ça, Heidi. Nous allons voir Néhémie toujours sur la brèche pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Pourtant, les opposants ne manquent pas pour le déstabiliser. Va-t-il se décourager? Notre orateur Jacques Yosti nous en fera part après ce chant de Clarisse Montero, intitulé « Quand je pense ».
Quand je pense à tes merveilles, émue d'amour pour toi, je ne peux que plier le genou et t'adorer. Des pétales de rose s'envolent vers le ciel. C'est la louange de tes rachetés qui monte un même cœur pour t'honorer, Seigneur. Viens remplir ma
Grande.
il existe maintes façons d'évaluer une personne, selon son aspect physique, son éducation, son appartenance ethnique, son rang social, sa richesse, et que sais-je encore. Mais toutes ces caractéristiques font partie de la devanture. Aucun de ces tapes à l'œil n'en dit long sur ce qui est vraiment à l'intérieur, dans son cœur et en son âme. Ce sont les épreuves de la vie qui révèlent de quel acier est trempé un individu. Mieux encore, c'est sa réaction aux critiques injustes qui va démontrer qui il est vraiment. Je dois avouer que pour ma part, et placé dans une telle situation, je ne réagis pas très bien. En fait, je me fais des compliments en disant cela, car dans la réalité, j'encaisse plutôt mal. Tous les grands personnages de l'Ancien Testament ont dû subir des accusations non justifiées, et ils l'ont plus ou moins bien pris. Néhémie est un de ces hommes qui a adopté une attitude impeccable, et c'est ce qui va apparaître dans le chapitre 6 que je commence à lire. Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem, l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sanballat et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens, et ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. Versets 1 à 3. Néhémie et les Juifs n'ont pas reconstruit une muraille à partir de rien. Elle n'avait pas été totalement détruite lors de la prise de Jérusalem, et les Babyloniens en avaient laissé subsister des pans. En outre, elle avait fait déjà l'objet de réparations antérieures sous la direction du prêtre Esdras. Le chantier avait donc consisté à réparer les brèches et à reconstruire les parties de murailles manquantes. C'est aussi ce qui explique que toute la réfection ait pu être réalisée en 52 jours. Nous sommes donc à la fin des travaux et il ne manque plus que la dernière couche de peinture, ou presque. En tout cas, toutes les pierres sont scellées. C'est la dernière heure et l'ultime opportunité pour les ennemis des Juifs d'intervenir, car une fois les battants de porte posés, ce sera trop tard, la ville sera ceinturée et inaccessible aux envahisseurs de tout poil. Les trois mauvais lurons font donc leur réapparition avec bien sûr de sinistres intentions. Ils ont appris leur leçon et se montrent plus malins que les fois dernières. Au lieu d'essayer la force qui ne leur a pas réussi, ils vont ruser. Ils décident donc de s'attaquer à Néhémie lui-même, le chef du projet et conducteur des travaux. S'ils peuvent l'éliminer ou le discréditer aux yeux des Juifs, ce sera la débandade et la fin de cette entreprise. Ils vont donc essayer de neutraliser son action trois fois de suite. La première attaque est la plus subtile. Les trois lurons l'invitent à une prétendue conférence de paix entre gens de bonne famille. Ce guet-apens se trouve dans la vallée de l'Ono, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Jérusalem, aux confins de la région occupée par les rapatriés. C'était très proche de la Samarie, la province dont Sanballat était gouverneur. Néhémie, n'étant pas tombé de la dernière pluie, se doute bien qu'il y a un lézard, qu'on lui tend un piège. S'il avait accepté leur proposition, il se serait trouvé dans une bien mauvaise posture, mais il les envoie promener. Je continue. À quatre reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournais la même réponse. Verset 4. Au lieu de proposer à Néhémie une rencontre dans Jérusalem, les mauvais lurons réitèrent la même demande. Néhémie aurait bien pu se montrer irrité et impatient, mais en répondant toujours la même chose avec courtoisie, il attendait qu'ils révèlent leur vrai mobile. Sa patience a porté des fruits car ses ennemis ont finalement craché le morceau. Je continue. Une cinquième fois, Sambala m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Verset 5. À cette époque, les lettres écrites sur des feuilles de papyrus ou de cuir étaient enroulées et scellées par un sceau d'argile sur lequel on imprimait son cachet afin d'en garantir l'authenticité. Elles étaient ensuite glissées dans un étui de soie. En envoyant une lettre ouverte, que tout le monde pouvait donc lire, Sambala voulait à la fois insulter Néhémie, l'effrayer et l'irriter pour lui faire perdre son sang-froid. Je continue. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les Juifs vous projetez une révolte. » Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. » Versets 6 à 7. Cette accusation est particulièrement insidieuse. D'abord, elle était rédigée comme si son but était de parer aux mauvaises langues qui faisaient courir de faux bruits. En second lieu, ces mauvais lurons tentaient d'effrayer Néhémie afin de lui faire perdre son sang-froid. En effet, les monarques perses, comme tous les tyrans qui se respectent, étaient très attachés à leur monopole du pouvoir. Ils ne toléraient aucun prétendant à la royauté dans les pays soumis. L'empereur Darius l'a clairement exprimé dans une inscription qu'on a retrouvée. Une accusation du même genre portée contre le prêtre Esdras avait déjà été adressée à l'empereur. Je cite le passage. « Que l'empereur sache que les Juifs revenus de chez toi sont arrivés parmi nous à Jérusalem » et sont en train de rebâtir la ville rebelle et perverse. Ils en réparent les remparts et en restaurent les fondations. Que l'empereur sache que si cette ville est reconstruite et si ses remparts sont réparés, ses habitants ne payeront plus ni tribut, ni impôts, ni taxes de péage, ce qui finalement lésera le trésor royal. » Fin de citation. Je continue le texte. « Je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. » Versets 8 à 9. Néhémie ne se laisse pas intimider et fait dire à ses ennemis que ces faux bruits ont été inventés de toutes pièces. Il a aussi expliqué à ses compatriotes qui avaient entendu la lecture de cette lettre diffamatoire que le but de cette missive était de les effrayer, leur faisant croire que l'empereur les taillerait en pièces. Ensuite, et selon son habitude, il a adressé une supplication à Dieu afin qu'il ait le courage de finir le chantier. Une fois encore, on s'aperçoit que cet homme a l'esprit très pratique et qu'il était par ailleurs très spirituel dans sa démarche. Je continue. Je me rendis chez Shamaïa qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria « Allons tenir conseil dans le temple de Dieu au fond du sanctuaire et verrouillons-en les portes car ils veulent te tuer. » Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. » Verset 10. Les ennemis des Juifs persistent et montent un bon coup. Ils ont enrôlé ce Shamaïa qui devait être quelqu'un en qui Néhémie avait confiance puisqu'il accepte de le rencontrer chez lui. Ce traître et faux prophète qui prétend avoir reçu une révélation divine tente d'effrayer Néhémie afin de lui faire commettre une faute très grave qui le discréditerait totalement aux yeux de tout le peuple. En effet, il était strictement interdit à un laïc quelqu'un qui n'était pas de la descendance du grand prêtre Aaron, de pénétrer dans le sanctuaire. Je cite le passage de la loi où l'Éternel donne cette règle à Moïse. « Tu veilleras à ce que Aaron et ses fils exercent les fonctions sacerdotales. Celui qui ne serait pas de leur famille et qui s'approcherait du tabernacle sera puni de mort. » Fin de citation. Les mauvais bougres, Tobia et Sambala, étaient par ailleurs alliés au grand prêtre, qui est donc une autre pomme pourrie dans le panier qui brillera par son absence lors de la fête de la dédicace des murailles décrite à la fin du livre. Je continue. « Mais je lui répondis, comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. » Verset 11. Tous ceux qui essayent de faire échouer le projet de reconstruction des murailles ne tiennent pas compte de l'intégrité exemplaire de Néhémie. En tant que chef du peuple, il a conscience que son devoir est de donner un exemple de courage et de confiance en Dieu à tout le monde. Il n'a jamais permis à la peur de l'empêcher de faire ce qui est juste au regard de la loi. En conséquence, il ne se laisse ni manipuler ni acheter. Je continue. J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sambala et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. Versets 12 à 13. Néhémie a rapidement senti un rat crever. Il a tout de suite compris qu'il avait affaire à une entourloupette lorsque Shamaïa a révélé ses vraies couleurs. Il prouve sans conteste qu'il est un faux prophète en lui proposant d'une part de s'enfuir comme un lâche en abandonnant le chantier et d'autre part d'enfreindre la loi. Je continue. « Mon Dieu ne laisse pas Sambala et Tobia impunis pour leurs actes, ni Noadia, la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. » Verset 14. Cette nouvelle prière d'imprécation inclut une prophétesse qui n'apparaît nulle part ailleurs. Décidément, tout au long de ce projet de reconstruction, Néhémie ne fait que de tomber de Charib dans Silla, où qu'il se tourne, un nouveau complot se trame contre lui. Tout porte à croire que le guet-apens mentionné précédemment n'est qu'un exemple parmi d'autres des problèmes qui guettaient Néhémie à chaque tournant de la route. Apparemment, il avait déjà eu affaire à plusieurs faux prophètes. Il n'est pas étonnant que ceux-ci furent nombreux à opérer dans la nouvelle communauté juive, puisqu'ils foisonnaient déjà, jadis parmi le peuple, avant l'exil babylonien. Dans toute l'histoire de l'humanité, lorsqu'on l'examine du point de vue spirituel, on s'aperçoit qu'en Dieu est activement à l'œuvre, Satan et ses émissaires entrent eux aussi sur scène pour essayer de contrecarrer ses plans. C'est d'ailleurs cette constatation qui a conduit plus d'un philosophe à adopter le point de vue qui correspond au dualisme manichéen. Ils ont conclu un peu trop vite que notre monde était le théâtre d'un combat entre dieux de forces plus ou moins égales, dont l'un serait bon et l'autre méchant. Cette façon de concevoir la réalité se retrouve dans plusieurs religions. Cependant, selon l'enseignement des textes sacrés, il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, qui est le Créateur Tout-Puissant, et Satan n'est qu'une créature rebelle, à qui Dieu permet un certain degré de liberté pour plusieurs raisons qui nous échappent. La seule qui nous soit clairement révélée est que la présence et l'action du diable donnent aux hommes l'occasion de choisir leur allégeance. Je continue le texte. « La muraille fut achevée en 52 jours, le 25 du mois d'Eloul. » Verset 15. C'est fin septembre de l'an 445 avant Jésus-Christ que la dernière porte fut mise en place. Le tout a pris moins de 2 mois, ce qui représente peu de temps au regard de la somme colossale de travail que ce projet a constitué. Même s'il ne s'agissait que de réparer les brèches, celles-ci étaient énormes. Cependant, la plupart des pierres nécessaires aux bâtisseurs étaient sur place, il n'y avait qu'à les sortir des décombres. De plus, les travailleurs étaient zélés et nombreux, puisque même des gens de la campagne se sont joints aux habitants de Jérusalem. C'était aussi un travail très pénible et stressant, surtout quand les menaces des adversaires se firent de plus en plus précises. Pour cette raison, un tel effort n'aurait pas pu se prolonger trop longtemps. C'était, je le rappelle, vers la fin de l'année précédente, alors que Néhémie se trouvait à Suse, une des capitales de l'Empire perse, qu'il apprit pour la première fois que les remparts de la ville de Jérusalem étaient à nouveau en ruine, et c'est en mars-avril qu'il présenta son projet à l'empereur. Ensuite, il lui a fallu entre 2 ou 3 mois, tout au plus, pour se rendre sur place. Dès son arrivée, il ne prend que 3 jours de repos, puis examine l'état des murailles et convoque une assemblée du peuple qui se met tout de suite à l'œuvre. Et maintenant, le chantier est terminé. Ce tour de force a essentiellement reposé sur les larges épaules de Néhémie, qui fut l'instrument humain choisi par Dieu pour mener à bien cet immense projet. La coupure du ruban et l'assemblée solennelle pour la dédicace des murailles s'est tenue 6 jours plus tard et est décrite plus loin. Je finis ce chapitre. Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Durant toute cette période, des notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobia. En effet, beaucoup de Judéens étaient liés à lui par serment parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son propre fils avait épousé la fille de Meshulam, fils de Berekia. Ils avaient même l'audace de vanter ses mérites en ma présence, et ils lui rapportaient mes paroles. C'était ce Tobia qui envoyait des lettres pour m'intimider. Versets 16 à 19. Tobia, cet ammonite véreux très peu recommandable, a donc réussi à causer pas mal de soucis à Néhémie parce qu'il était allié par mariage à 2 familles juives. D'une part, il avait épousé une femme descendante d'un des premiers groupes de rapatriés, et d'autre part, son fils était en parenté avec une famille influente de Jérusalem qui avait même travaillé sur 2 sections de la muraille reconstruite. Alors il y avait un ver dans la pomme. En effet, cette famille juive avait juré de soutenir Tobia, ne disant évidemment que du bien de cette fripouille. On aurait pu les entendre dire « Mais voyons, Néhémie, Tobia est un homme tout ce qu'il y a de plus charmant, il a notre peuple à cœur, etc. » Non seulement ça, mais les membres de cette famille agissaient comme agents de liaison, comme une bande de mouchards. Il ne rechignait pas à rapporter tous les propos de Néhémie à Tobia, qui, telle une pieuvre aux tentacules longues, faisait fortement sentir sa présence. Au début du livre, cette crapule est appelée serviteur ammonite, alors on peut se demander comment un tel étranger et son fils ont-ils bien pu être reçus dans ces familles influentes? Et comment ont-ils un nom aussi éminemment juif? Il se trouve que dans la culture orientale, même les esclaves arrivent souvent à occuper une position d'importance et à faire de brillants mariages. Au vu des conséquences désastreuses que pouvaient entraîner de telles alliances boiteuses, on comprend mieux la sévérité de la mesure qu'avait prise le prêtre Esdras contre les mariages mixtes. Mis à part Tobia, Néhémie s'était mis à dos certains juifs aisés de Jérusalem lorsqu'il avait pris position contre ceux qui n'avaient pas hésité à exploiter leurs frères. Avec fermeté, Il a défendu les intérêts des pauvres contre les exactions de ces capitalistes sauvages, mais ceux qui ont trouvé la pilule amère avaient retourné leur veste et, désirant se venger, ils voulaient dorénavant faire capoter le projet de reconstruction des murailles. Entre les uns et les autres, ce ne sont pas les difficultés qui ont manqué à Néhémie. Elles provenaient de partout, de l'extérieur comme de l'intérieur, et étaient de tous ordres. Il y avait même des faux prophètes à la solde de l'ennemi qui ont tenté de l'effrayer. Mais dans tout ça, Néhémie a réagi avec courage, sagesse et justice. Animé par sa foi en l'Éternel, il a triomphé. Il s'est comporté comme un grand capitaine au long cours qui, contre vents et marées, a gardé le cap droit devant. Néhémie a su mener sa barque jusqu'au port malgré la tourmente. Il a achevé la tâche que l'Éternel lui avait confiée, la reconstruction des murailles en un temps record avec l'aide de notre Dieu, comme il le dit lui-même. Cet homme courageux est un exemple d'intégrité et de confiance en Dieu, un modèle à imiter.
Monsieur Mercioni qui vient de nous chanter ce titre « Car je t'aime ». Voici que notre rubrique se termine. Si vous souhaitez prolonger cette rubrique et recevoir gratuitement le texte de ce jour, nous vous invitons à nous appeler au 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628.
Vous pouvez aussi télécharger le texte en question. Connectez-vous sur notre site chemindevie.info, chemins au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info. Voilà, c'est l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. Au revoir et n'oubliez pas, demain, nous nous retrouverons à la même heure.
Au revoir.